Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast 1000%, le podcast où on parle santé, sport et nutrition. Aujourd'hui, nouvel épisode, sujet très sensible, on va parler du cancer. Mais pour cela, on a vraiment fait le choix d'avoir un expert sur le sujet. On a décidé d'inviter Laurent Schwartz, qui est formé à l'université de Harvard, longtemps chercheur à l'école polytechnique. Laurent est cancérologue de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, l'APHP. Il a consacré sa vie au développement de traitements novateur et non toxique du cancer. Dans cet épisode, on va justement voir la vision du cancer de Laurent Schwartz, qui est, selon lui, est une maladie métabolique. Comment guérir? Quels sont les traitements? Quel avis également sur les différents traitements que sont la chimio, la chirurgie? On voulait avant tout dire que cet épisode ne remplacera jamais une consultation médicale. Faites-vous encadrer. Bonne écoute.
Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000%. Pour être 1% meilleur à chaque épisode. Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet d'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité, un lieu, mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au sommet de l'hypersanté en 2026.
Allez, bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de 1000% Podcast, le podcast où on parle santé, sport et nutrition. Aujourd'hui, on va parler du cancer, un sujet qu'on n'a pas encore abordé dans notre podcast 1000%. On a la chance de recevoir le docteur Laurent Schwartz, qui va justement nous démêler un petit peu le vrai du faux sur le cancer, ou du moins il va donner sa vérité. Et on est déjà très ravis de vous recevoir, docteur, c'est un immense plaisir. On va vous laisser vous présenter, juste je présente le sujet pour nos auditeurs. Donc on va parler du cancer, son évolution au fil du temps. On va essayer de poser un petit peu le constat, de voir également ce qu'est le cancer, même si on n'a pas peut-être de certitude, on verra si on en a ou pas avec le docteur. Et enfin, les modes de prévention et d'action qu'on va avoir sur celui-ci. Je suis accompagné de Pierrot de la team 1000%. Ça va, Pierre?
Bonjour à tous les deux, oui. Ravi de recevoir docteur Schwartz, premier cancérologue qu'on reçoit sur le podcast pour parler de ce sujet brûlant qui déchaîne les patients.
Et donc aussi, vous êtes auteur du livre « Les clés du cancer » aux éditions Thierry Soucard. On mettra bien sûr le lien en description. On vous laisse la parole pour vous présenter. Merci encore d'être présent.
Bon, bonjour, moi c'est mon premier live avec vous de la même façon. Alors c'est gentil de présenter mon bouquin, mais il y en a eu depuis d'autres. Donc il y a eu celui sur le bloodméthylène qui est sorti il y a maintenant un an et demi. Et j'en ai un qui sort dans les semaines qui viennent, qui s'appellera « Choisir la vie ». Et je suis cancérologue et je suis cancérologue en révolte, ce qui me différencie des autres. Je n'ai pas choisi de monter progressivement l'échelle de la hiérarchie sociale. J'ai choisi au contraire d'essayer de guérir les malades, ce qui n'est pas exactement la même chose. Quand j'étais jeune, j'ai 67 ans maintenant, donc je ne suis malheureusement plus, j'ai assez rapidement compris que le traitement du cancer ne marchait pas. J'avais une trentaine d'années, donc à peu près vos âges à vous, et j'étais parti pendant quelques années aux États-Unis, et quand je suis revenu, les malades que j'avais soignés à Strasbourg n'étaient plus là. Donc c'est là que j'ai vu la réalité de ce qu'est la cancérologie. Et la cancérologie s'inscrit dans les problèmes de la médecine de façon plus globale. C'est pour ça que j'ai écrit « Choisir la vie » qui va sortir. Au fond, il n'y a pas de maladie qu'on sache guérir, qu'on ne savait pas guérir il y a une cinquantaine d'années. Quelqu'un de proche vient d'avoir une hernie ombilicale, on l'opère, elle passe 24 heures à l'hôpital et puis c'est réglé, c'est fini, c'est clair. Mais dans le domaine de la cancérologie, comme dans le domaine de l'Alzheimer, ou ainsi de suite, les progrès, s'ils sont là, ils sont pas évidents. D'où mon idée à moi, qui est une idée de révolte, c'est que pour guérir le cancer, qui est mon but, il fallait d'abord savoir de quoi on parle. Et pour aller sur la Lune, il vaut mieux savoir où est la Lune, sinon vous envoyez votre fusée au mauvais endroit. Si vous voulez guérir le cancer, il vaut mieux savoir de quoi vous parlez. Et au fond, ce sont des sujets qui semblent banaux, risibles comme ça, mais on n'a pas de définition claire du cancer. Excusez-moi, je vais être un peu long, mais après je vous laisserai de nouveau.
Vous avez le temps, il n'y a aucun souci.
Le cancer, pour le clinicien, c'est une masse dure, infiltrante. Ça s'appelle un crabe en grec, parce que les dendrites envahissent tout, et ainsi de suite. Pour le biologiste,
pour le biologiste,
c'est une cellule qui se divise en deux, quel que soit le contexte. Pour le biochimiste, ce sont des voies métaboliques qui sont anormales. Et pour nous, qui avons regardé au plus petit du plus petit, c'est un problème électronique. Et au fond, dans toutes ces définitions qui varient selon de qui vous parlez, l'échelle électronique, c'est-à-dire atomique, et de physique quantique, parce qu'à cette époque, à cet endroit-là, on est quantique, sont des choses, au fond, qu'on n'avait pas compris, qui étaient la physique quantique, c'est abscon. C'est abscon pour les radiothérapeutes dont je fais partie, c'est abscon pour les kinés que vous êtes, mais pour les physiciens, c'est une forme de logique. Et donc, on a utilisé les physiciens qui sont autour de nous pour comprendre au niveau le plus intime ce que c'était que le cancer.
Bien sûr, on va y revenir en profondeur. Juste avant de commencer, c'est vrai qu'on voulait poser un petit peu la situation. C'est vrai que moi, en lisant votre livre, j'ai appris qu'on a l'impression maintenant que le cancer, c'est une maladie moderne, qu'il y en a de plus en plus. Et vous dites justement dans le livre que c'est déjà présent. On a des traces qui ont été découvertes, que ce soit dans l'Égypte ancienne, voire même avant dans la préhistoire. Quelle est l'évolution du cancer au fil du temps? Est-ce qu'il y a vraiment plus de cancers maintenant qu'il y en avait avant?
C'est un sujet infiniment politique. Parce que les gens sont terrorisés, alors que ce soit les antennes 5G, la mauvaise bouffe, les hormones, les perturbateurs endocriniens. Enfin, vous avez une liste sans fin, et avec des gens dont la vie est gâchée, ne serait-ce que par là. Alors, je peux pas rentrer dans le détail de ce qui est raisonnable ou pas raisonnable. Nous, autour de moi, sommes essentiellement des matheux, donc on a regardé, au fond, l'évolution de la mortalité par cancer depuis 60 ans. Alors, premier fait qui est important à noter, les chiffres sur la mortalité par cancer depuis 5 ans ne sont plus disponibles. Je vous laisse toutes les interprétations, mais depuis 2020, on n'a plus les chiffres. Mais jusqu'en 2020, c'est-à-dire depuis les années 50 jusqu'à 2020, on avait en France et dans la majorité des pays, chaque fois qu'il y avait un mort, on remplissait un certificat de décès, il y avait la cause principale de décès, et on savait grosso modo de quoi il était mort. Il y a 4-5% des gens, on ne sait pas, mais la majorité des gens, on le sait, et ça rentrait dans l'ordinateur, et tout ça était modulé. La mortalité par cancer est grosso modo une constante. C'est-à-dire que à pays développés ou à peu près équivalents, la mortalité par cancer est la même aux États-Unis par tranche d'âge, en Allemagne, en France, au Japon, et ainsi de suite. Donc, il semble qu'il y ait quelque chose d'invariant. Et elle n'a pas évolué de façon évidente depuis 50 ans. Alors, ça monte un peu, ça baisse un peu, et ainsi de suite.
Finalement, s'il y a trois fois plus de cancers et qu'on en soigne trois fois plus, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, peut-être que c'est ça qui s'équilibre aussi.
Non,
il y a
mais
beaucoup
ça,
plus
c'est,
de cancers maintenant qu'avant.
Ça, c'est tout à fait possible. Moi, je vous dis que les seules données sur lesquelles on puisse étudier les choses, c'est les données de mortalité. Parce que elles sont solides, elles sont claires. Est-ce qu'un petit cancer du sein qui est détecté par mammographie est un truc qui s'apparente à un vrai cancer? C'est des discussions d'experts sans fin. Donc, ce qu'on sait, c'est que la mortalité par cancer est grosso modo une constante. Par contre, il y a un herbier majeur, c'est-à-dire qu'il y a des différences majeures de pays à pays. Certains pays, par exemple au Japon, ils font beaucoup de cancers de l'estomac. Et quand les Japonais partent vivre aux États-Unis, ils font moins de cancers de l'estomac, mais récupèrent un cancer du côlon. Donc, tout ça pour dire que l'incidence semble relativement claire. Le premier facteur de risque, c'est l'âge. Un cancer, dans les deux tiers des cas, c'est après 70 ans. Alors, il y a des gens qui n'ont pas de bol et qui ont ces cancers de façon plus précoce, mais c'est comme les voitures qui tombent en panne relativement tôt après la mise sur le marché. Il y a des problèmes de fabrication, des gènes anormaux, des choses comme ça. qu'on ne retrouve pas chez les gens plus âgés qui font pour la majorité des cancers liés au vieillissement de façon évidente. Et toutes les thérapeutiques ou les tentatives de prévention par des médicaments ont échoué. On a essayé des cocktails de vitamines A, B, C, D, vous les nommez. Il y a eu des essais qui ont été faits à droite à gauche. Ça n'a jamais rien donné. C'est-à-dire qu'on voyait de temps en temps baisser la mortalité du cancer, par exemple de la prostate, si vous tenez de la vitamine E, et puis c'est des cancers du poumon qui montaient. Moi, c'est dans l'autre sens, je ne m'en rappelle plus. Mais l'un dans l'autre, il n'y avait pas de panacée. Donc, on est dans des choses qui sont universelles.
C'est l'espérance de vie qui augmente, alors ? Ou pas spécialement ?
Mais l'espérance de vie a jusqu'à présent augmenté. Depuis le début du 19e siècle, on a pris presque 30 ans. Elle commence à baisser aux États-Unis, où ils ont perdu 6-7 ans depuis une vingtaine d'années. Et l'augmentation de l'espérance de vie a jusqu'à présent été un des facteurs prédominants de l'incidence des cancers.
Ok. Et c'est vrai que par rapport aussi au traitement, on a vu quand même éclore, bon, c'est pas récent, mais la chimiothérapie, la radiothérapie, vous dites dans votre livre que ça peut paraître justement aussi quelque chose qui, moi ça m'a choqué personnellement, enfin je ne m'attendais pas à ça plutôt. Vous dites que sur 100 patients qui sont guéris du cancer, 90 le sont de la chirurgie et le reste c'est la chimio et la radiothérapie qui serait du coup moins efficace.
Alors, vous passez du problème de l'incidence, c'est-à-dire qu'est-ce qui donne le cancer, où on oublie toujours le facteur majeur qui est l'âge. Alors, évidemment, là-dedans, il y a d'autres facteurs. Évidemment, il ne faut pas boire, fumer, exposer aux rayons. Enfin, vous avez plein de trucs. Donc, on sait qu'ils ne sont pas bons. Deux, le pendant qui est le traitement. Et le traitement, ça commence au 19e siècle. C'est la chirurgie et les techniques chirurgicales ont été améliorées de façon évidente et on opère mieux. Mais le cancer, quand il n'est pas opérable, il n'est habituellement pas guérissable. Et dans l'opération, je mets la radiothérapie qui est une forme de chirurgie différemment invasive, mais c'est un traitement local qui tue les cellules dans la sphère où c'est traité. Mais sur 100 cancéreux guéris, vous en avez 97 ou 96% qui sont guéris par une technique locale, qui sont essentiellement la chirurgie et la radiothérapie. Alors, le problème de la chimiothérapie, c'est que ça a été, comme toujours, le grand espoir. On avait vu dans les années 50 les antibiotiques être efficaces, et moi, quand j'avais regardé l'évolution de la mortalité par cancer, on avait regardé les maladies infectieuses, et c'est très impressionnant parce que en l'espace de 2 ans, on voit la mortalité par maladie infectieuse dans les années 47-48 diminuer de 70%. Je veux dire, paf, c'est fini, les sanatoriums sont vidés, c'est réglé. Et on avait espéré qu'avec les traitements du cancer, on ait la même chose. Or, on n'a pas eu la même chose. Et à part quelques cancers rares de l'enfant, les cancers guérissables par la chimiothérapie et ou l'immunothérapie se comptent sur les doigts de main. Et malheureusement, j'ai le recul de l'âge, comme je vous disais. Il n'y a pas de cancer aujourd'hui qu'on sache guérir, qu'on ne savait pas guérir quand moi j'étais de vos âges. Pas un. Pas plus qu'on ne guérit un Alzheimer, un Parkinson ou ainsi de suite. Donc, se pose la question pour tout être raisonnable, c'est de renverser la table. Et vous avez le choix, comme je vous disais plus avant, humainement, entre deux façons d'être. La première, c'est que vous vivez dans le système, vous êtes dans le système, vous progressez socialement, et tout cancérologue connaît des patients connus, et ainsi de suite, à des entrées à droite à gauche. C'est un métier où les relations sociales sont tout de même très particulières. Soit, vous dites, ça marche pas, j'essaie de faire autre chose. Donc ça, c'est ce que moi j'ai essayé de faire, j'ai essayé de renverser la table. Ce qui nous amène à la question que j'essaie de vous dire avant, de quoi parle-t-on ? Tout clinicien sait à quoi ressemble un cancer. Aujourd'hui, on les biopsie systématiquement parce que c'est la mode du moment, mais je veux dire, quand vous voyez une tumeur, ça saute aux yeux si vous avez fait vos études de médecine de façon constante ou propre. Et nous, pour renverser la table, il fallait faire venir d'autres acteurs. Et les autres acteurs, c'est des scientifiques qui peuvent raconter quelque chose sur le sujet et qui n'ont pas été formés dans les écoles de médecine et biberonnés à une logique qui n'est pas probablement correcte. Et donc, c'est venir à la physique quantique, c'est venir aux mathématiques, c'est venir à une culture qui est complètement différente. Vous me laissez encore 2 minutes ou vous voulez parler?
Oui, bien sûr. Ah, bah, allez-y, bien sûr, avec grand plaisir.
Alors, je crois que vous avez fini en biologie, alors c'est vrai pour le cancer, mais c'est vrai pour tout, on essaye d'expliquer par une logique qui est le système immunitaire. La logique du système immunitaire, c'est qu'il y a les bonnes cellules, il y a les mauvaises cellules, il faut dresser les bonnes cellules à tuer les mauvaises cellules. C'est la guerre de 14, vous allez aux tranchées et puis vous envoyez les bonnes cellules, tuer les mauvaises cellules, en l'occurrence les Français sur les Allemands. Vous pouvez avoir des variations de pays à pays, mais le module est là. Mais ça, c'est une fable d'école. Je veux dire, c'est une carabistouille. Et puis, quand le modèle colle plus, ben, on parle de maladies auto-immunes. C'est-à-dire que les bonnes cellules sont devenues un peu folles et vont tuer les autres bonnes cellules. C'est du n'importe quoi. Et c'est ce n'importe quoi dans lequel nous, médecins, sommes éduqués. D'où l'idée de stimuler toujours ces bonnes cellules. Alors, vous avez des stimulations par de l'immunothérapie, par des vaccins, par tout ce que vous voulez. Et au fond, comme je vous le disais il y a 5 ou 10 minutes, pas de maladie qu'on sache guérir, qu'on ne savait pas guérir avant. D'où un vrai problème. Et nous, ce qu'on a compris, mais vous savez, on ne comprend pas tout ça en 5 minutes, c'est qu'au fond, toutes les maladies, le cancer évidemment, mais les autres maladies aussi, résultent du fait qu'on brûle mal le sucre. C'est ce qu'on comprend. Alors ça, il y a une explication électronique dans laquelle un podcast n'est pas le support. Mais je vous retourne à mes articles scientifiques ou ceux des gens autour de moi. Ce qu'on a compris, c'est que dans toutes les maladies, y compris donc le cancer, vous aviez le fait que le sucre était mal brûlé. Alors c'est vrai pour le cancer, c'est vrai dans la psychiatrie où ça aussi ça brûle mal, c'est vrai dans l'Alzheimer, c'est vrai. Et que si vous voulez relancer la combustion du sucre, il faut diminuer cette pression électronique dont je parle larga manu dans les bouquins. Et pour ça, vous avez des médicaments qu'on connaît, qui sont du bleu de méthylène à l'ivermectine, au fimbendazole ou à d'autres molécules comme ça, qui toutes marchent de la même façon. Et donc maintenant, se pose la question du changement d'époque. On voit bien que d'une façon politique, le monde chahute. Là, on vient juste de sortir la liste Epstein et tout ça. On voit bien que les gens sont paumés. Et au fond, nous arrivons avec autre chose, une autre vision du vivant, une autre compréhension du vivant et probablement la capacité à traiter ces maladies. Alors, est-ce que c'est un bien sur la société ou un mal pour la société? Moi, c'est pas à moi de répondre. C'est évidemment un bien quand vous voyez des gens mourir et que vous voulez qu'ils meurent pas. Maintenant, ça va déstabiliser encore un peu plus une société qui est très instable.
Ce que vous évoquez, c'est le fait que le cancer ne soit plus forcément lié à une infection génétique, même s'il y a des cas spécifiques que vous décrivez dans le livre, bien entendu, mais que ce serait principalement un problème métabolique. On a découvert Lucie et on est fan. C'est 2 check-ups complets par an, sans ordonnance, avec plus de 70 biomarqueurs testés. Inflammation, hormones, métabolisme, âge biologique, c'est vraiment une analyse à 1000%. Lucie te fournit un rapport clair, interprété par des médecins, avec des recommandations personnalisées. C'est de la santé préventive au service de la performance, rendue enfin accessible au plus grand nombre à un prix défiant toute concurrence. Si tu veux être à 1000%, rends-toi sur lucis.life, choisis ton test et entre le code podcast1000 pour une réduction. Lien et code en description.
Ça, le fait que ce soit que le métabolisme soit un jeu, est quelque chose d'admis par toutes les écoles de cancérologie. Il n'y a plus de discussion là-dessus. Nous, on a poussé le bouchon un peu plus loin et on a dit que ça n'est que l'ensemble de ce que vous voyez dans un cancer résulte de la mauvaise digestion. Ça, c'est ce qu'on a compris. Donc, ça a été publié par nous, par d'autres aussi. Et donc, il a été tout sauf simple au 19e siècle de comprendre que le diabète, son amaigrissement et ainsi de suite, était lié au fait que le sucre ne rentrait pas dans les cellules. Aujourd'hui, c'est une évidence et on traite les diabétiques par l'insuline, mais au 19e siècle, c'était un vrai sujet. Le fait que le cancer soit une mauvaise digestion du sucre, tout le monde dit que ça joue probablement un peu, et tout ce que vous voulez, mais nous, ce qu'on a compris, ce n'est que ça. Et la couche qu'on a mise derrière, qui n'avait pas été vue ou comprise à l'époque, c'est que là derrière, il y a une explication électronique. Et ça n'a pas été vu parce que les biologistes, comme je vous disais plus avant, et ou les médecins, la physique quantique qui pédale dans la choucroute, c'est pas méchant, mais je veux dire, c'est une spécialité comme une autre, et ça, ses propres règles. Et au fond, ils se sont perdus dans la mythologie de la bonne cellule, de la mauvaise cellule, et vas-y que je te tue, et ainsi de suite. Avec, depuis 60 ans, c'est-à-dire l'apparition des premières chimiothérapies, une stagnation des résultats cliniques.
Et justement, est-ce qu'on pourrait parler de... On a la chance d'un 1000% d'avoir quand même une communauté qui est assez intéressée par ces sujets, où on peut aller un petit peu en profondeur. Est-ce que vous pourrez, avec des mots simples, vulgariser l'effet Warburg, justement, dont vous parlez dans votre livre, et comprendre le changement au niveau de entre une cellule saine et une cellule cancéreuse? Qu'est-ce qui se passe sur cette différence au niveau du glucose?
Alors, c'est comme tout, je vais essayer de vous le vulgariser pour être compréhensible. Oui. Il y a une couche de physique derrière qui n'est pas triviale. C'est essentiellement mon ami Romain Attal qui a travaillé là-dessus, et feu le professeur Marc Henry. Donc, je vais rester à un niveau de lecture que je vais essayer d'être compréhensible. On est en 1920, c'est-à-dire avant nos naissances à tous les trois, et les Allemands s'intéressent à la respiration cellulaire. Comment est-ce qu'une cellule respire, et ainsi de suite. Avec deux intérêts, un intérêt de compréhension de base et un intérêt des gaz toxiques qu'ils ont développés pendant la guerre de 14. Et un physicien allemand, Otto Warburg, est capable de comprendre que toutes les cellules tumorales, hein, il s'est déjà cultivé des cellules, il sait les mettre dans certains dispositif, il sait mesurer la respiration, il comprend que toutes les cellules tumorales captent plus le sucre, ne le brûlent pas et sécrètent bien quelque chose. Comme ça ne brûle pas, il faut qu'il y ait une sortie quelque part. Et ça s'appelle de l'acide lait. C'est ce qu'on appelle l'effet Warburg. Et puis ça, c'est reconnu comme une vraie découverte. Warburg a le Nobel. Les gens comprennent qu'il a compris. Et il écrira après que toutes les cochonneries que l'on connaît qui sont censées causer le cancer, qui vont des gènes tumoraux aux produits chimiques et ainsi de suite, ça induit une fermentation cancéreuse. Donc il comprend qu'il y a un point central et qui est un noyau vers lequel convergent plein de voies métaboliques. Et puis tout ceci s'oublie parce que Warburg est allemand, qu'il a travaillé avec Hitler, qu'il n'est pas parti aux États-Unis, et puis il y a la découverte du génome, et puis le fantasme de l'ordinateur central, puis ça pourrait pas être aussi simple que ça, et puis le fait que Warburg devait être totalement insupportable, il adorait son cheval et il mangeait bio, il mangeait jamais avec les autres parce qu'il mangeait pas bio, enfin psychiatrique comme tous les grands chercheurs, je veux dire. Tout ce monde-là est homme particulièrement original, comme on dit poliment. Enfin bref, ça tombe en désuétude. Et puis ça revient à la mode dans les années 2000 ou à peu près, quand on injecte du sucre radioactif pour voir si l'étendue des tumeurs. Et on voit que toutes les tumeurs, ce qu'on appelle un PET scan, fixent PET scan et que les cancers captent le sucre. Donc ça, on le voit. C'est la façon dont on sait si le cancer est calme, pas calme, s'il est disséminé, et ainsi de suite. Mais l'idée même qu'on puisse traiter ça par des médicaments, Warburg, il n'a pas touché. Ça me rappelle une autre histoire, excusez-moi, je fais un peu de temps en temps de divergence historique. En 1880, donc encore avant nos naissances et celles de nos parents, ou de grands-parents, on comprend que la tuberculose qui est le fléau de l'époque, hein, est due à une bactérie qu'on appelle le bacille de Koch.
et on essaie de monter les antibiotiques et ainsi de suite, et c'est la vaccination du BCG. Mais l'idée même qu'on puisse traiter les infections par des antibiotiques, c'est 60 ans plus tard. Parce qu'à l'époque, ils ne croyaient qu'au vaccin. Et donc, utiliser des produits chimiques pour traiter, donc on va appeler les antibiotiques, les maladies infectieuses, c'est 60 ans plus tard. Parce que les gens n'y croyaient pas. Et Warburg, il comprend le cancer, ou il comprend une couche du cancer, mais l'idée même qu'on puisse traiter ça par des médicaments, c'est pas son histoire. Lui, c'est un biochimiste, mais pas il voit pas les malades. Il les a pas. Après, je vais vous passer la parole. Mais donc, nous, ce qu'on comprend, c'est que on peut lever cette fermentation cancéreuse. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de travail sur les souris, innocentes, mais plutôt sur les souris que de faire des conneries sur les gens. Et on comprend qu'il y a des traitements qui permettent de lever cette fermentation cancéreuse et d'arrêter la croissance du cancer. Alors, ça sera l'acide lipoïque, l'hydroxycitrate, et après le bleu, le dioxyde de chlore ou l'ivermectine. Et se pose évidemment la question du passage à l'eau.
Vous parlez de fermentation pour ces cellules et non plus de consommation de glucides comme elles se feraient classiquement. Est-ce que vous pouvez rentrer dans le détail et nous expliquer comment ça se passe, pourquoi cette cellule elle fermente, qu'est-ce qui la différencie d'autres cellules et pourquoi elle se met à fermenter? L'explication de l'effet Warburg que vous décrivez en long, en large, en travers dans votre livre sur les clés du cancer.
Ok. Non, je vais essayer. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont accroché le phénomène par des angles différents. Il y a Warburg qui travaille sur ces dispositifs scientifiques et qui remarque que la cellule tumorale, même en présence d'oxygène, ne brûle pas. Et puis, il y a le boulanger qui utilise sa levure et qui fermente le pain. Et c'est comme ça que le pain monte. Et lui, il parle de fermentation. Mais au fond, c'est la même chose, seulement ce sont des angles différents, des cultures différentes. Et vous avez toute une liste de synonymes. Alors, c'est l'effet Warburg pour faire scientifique, la fermentation, c'est la croissance, hein. Quand un bébé grandit, c'est qu'il brûle mal. Et dire à une mère que son bébé va bien parce qu'il fermente, ça passe pas, mais c'est au fond la vraie chose. Et nous avons des mots plus scientifiques comme anabolisme, et ainsi de suite. Donc vous avez plein de mots qui veulent dire la même chose. Il y a un des travaux a priori surprenants du scientifique a été de faire un dictionnaire ou un lexique. Tous ces mots sont synonymes, ils ont simplement été vus par des gens d'une culture générale différente, donc ils ont employé des mots différents. Nous, ce qu'on comprend, c'est que la cellule, elle peut faire deux choses. Elle peut soit brûler, et ça fait du gaz carbonique et de l'eau, les mitochondries fonctionnent, vous chauffez, c'est ce que vous faites quand vous faites votre jogging, ou votre exercice physique quand vous faites votre kiné ou n'importe quoi, soit elle ne brûle pas bien et elle va faire de la masse. De la masse, c'est-à-dire qu'elle fermente, c'est de l'anabolisme, tout ça, c'est des mots synonymes. Et ce qu'on comprend, c'est que il y a une couche de physique en dessous de ça, c'est que quand une cellule brûle, donc quand une cellule va bien, les électrons et les protons qui viennent de l'alimentation vont se lier à l'oxygène pour faire de l'eau. Et on synthétise dans la journée de l'ordre de 1 demi-litre d'eau par jour. Okay. Quand l'oxygène n'est pas présent, quand il n'est pas utilisable pour une raison X, Y ou Z, parce que la machinerie est cassée, les mitochondries ne marchent pas bien ou tout ce que vous voulez, et ben ces électrons, ils sont tous extrêmement réactifs. Et ils vont devoir être sortis de la cellule et ils vont aller dans les voies de synthèse. Alors, pour les scientifiques que ça intéresse, ça s'appelle le NADH, le NADPH, le FADH, enfin, ça a des noms chimiques. Et c'est ça qui va entraîner la synthèse. Donc, ce qu'on comprend, c'est que la synthèse, la fermentation, l'anabolisme, tout ça, c'est une question d'électrons. Et ça, on a été capable de le démontrer au laboratoire. Ça a d'abord été une idée. Après, comme toutes les idées, on a cherché dans la littérature si d'autres les avaient déjà pensées. Et il y a un prix Nobel qui l'a déjà pensé dans les années 60, qui est Sven Joggi, le découvreur de la vitamine C. OK, donc ça compte. Après, ce que vous allez voir, c'est que dans l'ensemble des maladies, quelles qu'elles soient, vous avez l'effet Warburg, de la synthèse, de l'anabolisme. C'est toujours la même chose. Et c'est toujours la même chose dans le... Vous avez des... Dans le cancer, c'est une cellule qui se divise en deux, donc de la synthèse. Dans l'Alzheimer, vous avez des dépôts multiples dans le cerveau qu'on appelle les plaques amyloïdes. Dans le Parkinson, vous avez des dépôts qu'on appelle les corps de Lévy. Dans l'inflammation, vous avez des sécrétions de protéines, la plus connue étant la CRP qu'on dose dans les prises de sang, mais vous en avez plein d'autres, et ainsi de suite. Et aux surprises, les molécules qu'on voit qui peuvent calmer ces voies métaboliques, comme le bleu de méthylène, l'ivermectine ou d'autres, eh ben, ça a l'air de traiter toutes ces maladies. Donc on se dit peut-être que c'est plus court que ce que ça va être. Et peut-être qu'on peut y arriver de façon plus simple que ça.
Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code PODCAST10. Lien et code en description. Retour au podcast.
Ça m'en va.
On va y arriver, on finira bien sûr par des conseils pour justement essayer d'être actif et sur le traitement du cancer. Avant de partir sur cette partie-là, moi j'aurais aimé qu'on s'attarde un petit peu sur les mitochondries, si ça vous dérange pas, et aussi leur importance. C'est vrai que souvent on a l'impression que le cancer ça peut être une maladie génétique, je sais pas pourquoi, on voit le noyau. Il y a eu des expériences notamment qui ont été faites avec des déplacements de noyaux et des mitochondries saines. J'aimerais que vous nous parliez de ça s'il vous plaît pour comprendre l'importance de la mitochondrie dans le cancer. Et est-ce qu'elle est vraiment, après moi c'est ma vision de la lecture que j'en ai compris, mais votre vérité à vous, quelle place auraient ces mitochondries justement par rapport au cancer?
Vous savez, je me méfie toujours des gens qui ont la vérité. On a des hypothèses.
Elles ont nous aussi, on se méfie de vous. Hein.
Mais d'être sûr, il y a quelques dingues qui sont sûrs. C'est comme ça qu'on les reconnaît, d'ailleurs. Ce qu'on sait, c'est que chaque fois qu'on refait brûler une cellule, elle arrête d'être pathologique. Là, on peut la refaire brûler par le méthylène, l'ivermectine, des molécules comme ça. On peut la refaire brûler en remettant les petites centrales thermiques dans les cellules qu'on appelle les mitochondries. Et vous faites allusion à des expériences qui ont été faites sur des cellules tumorales. Si vous prenez des cellules tumorales et que vous leur mettez des mitochondries à l'aide d'une micropipette dedans, les mitochondries normales vont fonctionner et la cellule elle va être totalement normale. Et si, au contraire, vous prenez une cellule cancéreuse, une cellule normale, et vous mettez un noyau de cellules cancéreuses dedans, bah, rien se passer. Donc, c'est pas dans le noyau que ça se joue. Donc, c'est pas dans le génome ou pas uniquement dans le génome que ça se joue. Par contre, si vous mettez les cellules, les mitochondries cancéreuses à la place des cellules normales, pas bon pour la cellule, hein. Donc, voilà. Vous savez, mettez-vous juste à ma place. Je suis en train de vous expliquer le fléau du XXe siècle et du XXIe siècle. Et moi, j'ai pas d'intérêt financier dans le truc-là. Je suis pas soutenu par des systèmes qui sont lourds. J'ai essayé de comprendre parce que je voyais les gens malades. Et il y a rien de plus humiliant pour moi que de dire des conneries. Donc tout ce qu'on a essayé de raconter sur notre vision du vivant, ça a été évidemment discuté énormément entre nous. Je suis entouré de gens qui ont des CV à rallonge. Et puis, ça a été testé au labo à droite, à gauche. Parce que ça aurait été, je veux dire, inhumain de sortir un traitement du cancer dont on pense qu'il est efficace, et que ce soit le carabistouille. Je laisse ce genre de plaisir à d'autres, mais certainement pas. Donc après se pose la question que vous alliez me poser de qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont ici et là et maintenant, qui est un vrai sujet. Et là, entre en ligne de compte des paramètres qui ne sont pas des paramètres scientifiques. Moi et les gens autour de moi, on aime les équations, on aime les discussions sans fin sur le spin de l'électron, dont je ne vous ai pas parlé pour épargner les auditeurs, parce que le spin de l'électron, c'est vachement important aussi.
Vous nous avez dit, j'ai qu'une heure, donc...
j'ai essayé de...
Si vous voulez que le docteur revienne, mettez-nous un petit commentaire, on fait
une masterclass sur le spin de l'électron.
Il y a encore des couches. Donc nous, on n'est pas spécialistes là-dedans. La société ne veut pas bouger, le cancer est à la fois un échec pas tant de façon thérapeutique, mais pas plus souvent que l'Alzheimer, hein. Et d'un espoir des thérapeutiques modernes qui viennent, et c'est toujours la question, est-ce qu'on est sur la bonne route, est-ce qu'on est au milieu du guet, est-ce que ça va y arriver plus vite ou pas. Sur les thérapeutiques modernes, il y a des thérapeutiques ciblées qui sont clairement extrêmement efficaces. Parce que vous touchez une voie métabolique qui est anormale dans la cellule tumorale, que vous remarquez en regardant le génome, vous bloquez cette voie métabolique et ça calme tout ça. Et si vous mettez un traitement type bleu en plus, c'est clairement efficace. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une définition du cancer qui, à mon avis, va tenir la route. C'est donc une fermentation liée à un effet électronique. Ça, je pense que ça va durer, c'est clair. On a des listes de molécules qui ont été démontrées comme efficaces clairement chez l'animal, à droite et à gauche, avec des données, souvent par exemple pour le méthylène, des publications de début du XXe siècle qui sont solides, même si elles sont âgées. Et au fond, qu'est-ce que doivent faire les malades? Ces thérapeutiques qu'on a développées sont des thérapeutiques qui ne coûtent pas grand-chose, en tout cas en prix de production, après que les gens s'en mettent dans les poches, c'est une autre histoire. Il y a un problème d'accès aux médicaments qui est évident. Et je vous parle même pas de l'ivermectine ou ce genre de choses où c'est un vrai sujet. Donc il y a un problème politique que moi je peux pas régler. Mais on a une définition claire du cancer. Des essais animaux qui marchent, qui sont de pays à pays, et des molécules qui coûtent pas grand chose et une maladie mortelle. Le reste, c'est aux gens de faire leur choix. Et il ne faut pas oublier, comme je suis dans un monde de sportifs, l'importance de l'exercice physique et ce genre de choses, qui est une autre façon de réactiver la mitochondrie et de faire brûler.
Et en plus, vous en parlez de la mitochondrie, vous faites un parallèle avec le cancer du sein, justement, que ça serait presque plus efficace, parce que j'ai mal compris, mais qui aurait... quand même une efficacité par rapport à la chimio qui serait limite plus importante en faisant de l'activité physique, si elle est possible, bien sûr, chez la femme, comparée à un traitement. Est-ce que c'est quelque chose qui a du sens pour vous?
Moi, les patients, quand ils peuvent, je les fais marcher, hein, évidemment. Ça coûte rien. C'est beau d'aller voir la campagne. Ça calme et ça relance les mitochondries. Ça, c'est clair, et je fais diminuer le sucre aussi, évidemment.
Donc, on revient sur un sujet qui revient tout le temps sur le podcast, c'est que finalement, on revient sur des choses simples. Le cancer, c'est ce que vous marquez dans votre livre, le cancer, c'est simple finalement. Et le traitement, est-ce que ce n'est pas juste de réoxygéner les tissus? C'était dans les quatre points de votre traitement métabolique du cancer que vous proposiez. Il y avait l'activité physique. Il y avait sur la nutrition qu'on va aborder ce point-là après. Et après, il y avait les deux molécules. Est-ce que vous pouvez développer justement cet aspect de réoxygénation des tissus? Comment vous voyez ça?
Je voudrais juste revenir sur quelque chose que vous avez dit avant. Ça semble simple, mais ça a été extrêmement dur d'arriver là. Parce qu'il a fallu déconstruire toute une mythologie auquel les gens tenaient. De la bonne cellule, de la mauvaise cellule, de l'ordinateur central qui était le génome, que tout était là. On arrive tout de même avec une vision radicalement différente de la santé et ainsi de suite, et des molécules radicalement différentes par leur absence de toxicité, par leur coût pour la société. Je veux dire, c'est ne sous-estimez pas le boulot que ceci représente.
C'est pour ça que j'ai cité hein, ce que vous avez dit dans le livre.
Oui.
Parce que pour moi, c'est quelque chose de compliqué. Hein.
Oui, mais je veux dire, vous savez, quand vous aurez mon âge ou ainsi de suite, on sait qu'on est arrivé quand c'est simple. Quand les choses s'expliquent en quelques phrases, ok, c'est habituellement correct. Quand c'est vous pouvez passer directement à autre chose. Et tout ceci est redoutablement simple. Alors, c'est pas réoxygéner qu'il faut faire, c'est pouvoir utiliser l'oxygène. C'est pas exactement la même chose. Il y a pas mal de gens qui ont essayé de prendre plus d'oxygène. Le problème de la cellule tumorale, c'est qu'elle n'est pas capable de l'utiliser. Il faut remettre ça. Alors, il faut, le traitement, c'est relativement simple. C'est diminuer l'apport de sucre. Pas trop, probablement, parce qu'il faut bien bouffer quelque chose. Il faut faire un peu de sport parce que ça fait brûler. Et puis, utiliser des médicaments qui augmentent la combustion du sucre. Et là-dedans, vous en avez, l'acide lipoïque, l'hydroxycitrate, le bleu, l'ivermectine, l'artémisine, enfin, vous en avez 13 à la douzaine. Et trouver une combinaison qui soit pas trop toxique et qui puisse aider les malades. Alors, nous, on s'est focalisé sur certaines molécules, il y en a d'autres. Au moins, moi, je sais qu'elles ne sont pas violemment toxiques. Je n'ai pas eu d'effet secondaire. L'hydroxycitrate n'est plus commercialisé en France parce qu'il y aurait eu quelqu'un qui serait mort en Australie en prenant ça. Mais on ne nous a jamais dit si on a pris 3 tonnes ou des broutilles ou s'il a tenté de se suicider. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est vide au sens scientifique. Et la question que je me pose, c'est quand est-ce qu'il va falloir combien de temps encore pour que les essais normés aient lieu ? Ou probablement, ils ont possiblement n'auront jamais lieu, mais c'est d'autres histoires. C'est plus mon problème à moi. Mon problème, c'est d'y comprendre quelque chose.
Donc, au niveau de l'alimentation, je me permets de rebondir dessus. Vous conseillez aussi d'avoir une alimentation donc pauvre en sucre, mais également pauvre en calories. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est aussi important ? Est-ce qu'on consomme trop de calories ? Est-ce qu'il faudrait moins manger ? Vous parlez aussi du jeûne. Il n'y a pas forcément d'études dessus, vous le dites, parce qu'il n'y a pas aussi d'argent, il n'y a pas d'intérêt économique derrière. Quelle est votre opinion justement par rapport à l'alimentation et les conseils pour nos auditeurs à mettre en place ? Bien sûr, on sait bien sûr qu'il faut se faire encadrer et ça, c'est vraiment la base de la base. On le répète et on le répète. Mais qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter comme petite astuce à tester
Tout dépend déjà du poids de la personne. Si vous avez quelqu'un qui est cachectique, évidemment, vous n'avez pas de faire maigrir. Au contraire. Si vous avez quelqu'un d'obèse, vous allez le faire maigrir. Si vous avez quelqu'un d'un poids à peu près normal et qu'il a un cancer, clairement, vous diminuez la pension. Est-ce qu'il faut aller au régime cétogène ? Il y a tout de même pas mal d'arguments pour penser que les corps cétoniques, donc les dérivés des lipides, sont brûlés par les cellules tumorales. Donc, moi, j'ai toujours été d'une infinie prudence. C'est une idée qui a été poussée par mon maître et ami Maurice Israël. Je crois qu'il a raison. Les corps cétoniques sont potentiellement dangereux. Donc, dans cette espèce de micmac, je fais maigrir les gros, ça c'est évident, mais ça tout le monde vous dira la même chose. Je fais diminuer l'apport en glucose et je pousse pas plus loin que ça. Alors il y a beaucoup de malades qui sont obsédés par la présence de corps cétonique dans les urines, qui veulent ceci, qui veulent cela. Il y a des gens qui maigrissent, qui font des jeûnes intermittents. C'est déjà assez compliqué, je peux pas rajouter ce degré de finesse à l'analyse de ce qu'on fait.
Mais quand vous dites on diminue les apports de glucides, finalement de sucre pardon, finalement le substrat énergétique reste toujours le sucre pour la cellule. C'est juste qu'il est plus en abondance extrême, mais la cellule utilise toujours le sucre.
Pierre, c'est une bonne remarque parce que quand vous vous mettez vous mettez en régime sans sucre, régime cétogène. Votre taux de glycémie ne va pas à zéro. Parce que vous synthétisez du sucre aussi. Et on synthétise, vous et moi, du sucre, essentiellement quand on est en train d'en manger. Et par contre, vous diminuez la synthèse de facteurs de croissance. Et c'est, on avait été capable, avec une équipe à Clermont, à l'époque où j'étais encore à l'école polytechnique, de cancériser des cellules de prépuces en les mettant, en exposant au glucose et à l'insuline. Et c'est, à mon avis, plus l'insuline qui est dangereuse que le glucose. Et quand vous mangez pas de sucre, vous sécrétez moins d'insuline.
Ah, donc en fait, c'est les pics d'insuline qui vont poser problème. D'où le fait que vous fassiez le lien avec l'anabolisme. L'insuline est une molécule qui est extrêmement anabolique.
Ben, c'est pas mal, Pierre.
Mais on bosse, hein.
Il faut pas le croire. Mais...
on dirait non, pas.
Heureusement, mais c'est pour ça que je viens, moi. Ouais.
Donc en fait, il faut lisser les pics d'insuline dans notre vie.
Ouais. Et c'est probablement vrai en prévention de la même façon. Et c'est probablement vrai pour l'Alzheimer et tout le reste.
Et justement, sur la
Alzheimer, prévention... Alzheimer, diabète de type 3, hein, avec un point d'interrogation.
Pourquoi un point d'interrogation?
D'accord. Non, c'est bon.
C'est validé.
C'était Anthony Berthoud qui nous en avait parlé dans, je ne sais pas si ça vous parle, Dr Schwartz, Anthony Berthoud qui a écrit le livre sur le traité de la pleine santé par l'alimentation durable, qui est un livre colossal sur la nutrition et avec des références bibliographiques qui sont aussi tout aussi étoffées et qui nous a évoqué pour la première fois dans le podcast le lien qu'il pouvait y avoir entre glucides, résistance à l'insuline, hyper-exposition aux glucides et le lien que ça pouvait avoir avec la survenue de la maladie d'Alzheimer qui pourrait être considérée, peut-être pas dans tous les cas, mais dans certains cas pour sûr, comme étant le nouveau diabète de type 3, enfin le nouveau, étiqueté en tant que tel en tout cas.
Je vous le fais un peu différemment.
Oui.
Allez-y.
Toutes les maladies sont les mêmes. C'est toujours la même histoire. C'est toujours une première digestion dessus. Alors, ça l'est évidemment dans le cancer. Le cancer est ce qui va être plus facile à étudier. Parce que vous pouvez cultiver des cellules tumorales en boîte de pétri. Vous pouvez l'injecter aux souris. Vous pouvez regarder si ça pousse, ça s'arrête de pousser, ainsi de suite. L'Alzheimer, ça marche pas. Vous n'avez pas de modèle. Nous, on a induit l'Alzheimer en tapant sur la tête des souris. Et ça marche. Un stress mécanique. Mais c'est un modèle. Il n'y a pas de modèle qui tienne la route de l'Alzheimer. Mais dans l'ensemble des maladies, quelles qu'elles soient, du Parkinson, au cancer, à l'inflammation, à ce que vous voulez, à la psychiatrie, il y a toujours un problème de métabolisme de glucose. Et il y a toujours un problème de mitochondrie. Et pour les physiciens, il y a toujours un problème d'hyperosmolarité. Et, aux surprises, comme je vous le disais avant, le bleu de méthylène marche dans toutes ces maladies. Donc vous avez affaire à un complexe intellectuel qui est une grande maladie qui marche probablement avec les mêmes. Ça, c'est ce qu'on a l'impression d'avoir compris, d'où l'idée que puisse complètement révolutionner la médecine.
Et justement, on parle un petit peu de prévention. Vous avez parlé d'inflammation, inflammation chronique. Vous dites que c'est le lit du cancer. Est-ce que vous pourrez nous en parler pour nos auditeurs? C'est vrai que je pense que ceux qui vont nous écouter ne seront pas tous des malades, mais plutôt des gens qui vont être justement attentifs à ce que vous allez dire et vont essayer de mettre des choses en place dans leur quotidien. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de limiter cette inflammation chronique?
Ne pas vieillir.
Ça va. Si vous avez les secrets, on les veut bien.
Hein. Non, je ne suis pas rentré là-dedans. Je veux dire, il y a une limite là où je vais. Moi, je suis cancérologue, j'ai assez à faire avec les gens qui claquent.
Bien sûr.
À essayer de les maintenir dans le monde. Et il est évident que le vieillissement, l'inflammation chronique, tout ça, ce sont des mots extrêmement liés et probablement synonymes. Et il est tout à fait possible qu'on puisse jouer là-dessus. Après, vous avez des tas de paramètres éthiques, politiques, économiques qui rentrent là-dedans. Et moi, je suis pas à même de choisir. Mais évidemment, on a ralenti le vieillissement dans les années 1900 à 1980 ou 90. Les gens vieillissaient moins vite. Le fait de dormir au chaud dans la maison le soir et pas dans la et pas dans dehors en sortant des champs, ne pas travailler comme un dingue à casser des cailloux, je sais pas quoi, l'espérance de vie augmente. Donc c'est quelque chose de modulable. Est-ce que c'est modulable plus loin? Probablement. Est-ce que c'est une bonne chose pour la société? C'est pas un moindre.
Je vous avez ouvert des portes. Je vais commencer d'essayer de vous pousser un peu dedans. Je suis désolé, mais c'est mon rôle. La gestion du sommeil comme paramètre intéressant pour la gestion de l'inflammation, la gestion de l'alimentation avec probablement forcément du bio de saison et la gestion de l'inflammation au niveau du système digestif, la supplémentation en oméga-3 qui permet de réguler les phénomènes inflammatoires du corps ou d'aider à la régulation si on doit faire un gros raccourci. Qu'est-ce que vous pensez de ces trois points?
J'aime pas donner des opinions quand ce sont des opinions non substantielles. Je suis, même si vous voyez pas, un timide. Je vis, je sors peu de chez moi et j'aime bien ma vie comme ça. Et donc d'aller rentrer dans tous les grands débats sociétaux sur ce genre de choses, j'y vais pas. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on a les moyens de comprendre. Et on a la grille de compréhension. Donc, on peut tester les oméga-3, on peut les tester maintenant qu'on a compris sur quoi ça devait agir pour avoir quelque chose. Et que se pose la question, pour moi, et c'est une raison pour laquelle je viens sur votre chaîne, c'est du transfert de ce qu'on a compris à d'autres. Au fond, vous savez, ne sous-estimez pas la violence que ça a été de simplifier le cancer pour y arriver. Ça a été extraordinairement violent, violent pour l'institution, violent pour ma famille, violent pour les malades. Suis pas à peine de rentrer dans les détails, je ne suis pas en train de régler mes comptes, mais voilà. Donc là, on a compris, c'est simple. Il y a les autres maladies qui vont suivre. Et là, je sors un livre qui est Choisir la vie, dont, permettez, je dis un mot.
Bien
On
sûr.
ne peut pas comprendre le cancer sans comprendre la vie, comment ça marche. Et tenter de piger ce qu'on fait sur cette terre. L'origine de la vie est un vrai sujet scientifique sur lequel il n'y a pas d'explication. Et on ne peut pas comprendre le cancer qui est d'une certaine façon une explosion de vie. La cellule tumorale est immortelle. Elles poussent en boîte de Pétri sans s'arrêter. Donc c'est probablement un excellent modèle pour comprendre l'origine de la vie. C'est ça qu'on amène et c'est là-dessus que je me bats. Je vais vous laisser.
On va non, juste vous vouliez parler aussi d'une fondation, je crois, sur laquelle vous voulez qu'on mette un
Oui.
lien.
Alors, je vais essayer de. Vous comprenez, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses. Vous comprenez qu'on n'est pas extraordinairement subventionné par les organismes classiques. Donc, je vais vous envoyer un lien pour la Fondation Guérir du cancer. Si vous
Donc,
pouvez faire
on
quelque chose,
mettra
c'est
tout
très
ça en
bien.
description.
Croyez-moi, moi, je roule en Dacia. Les gens autour de moi ne s'en mettent pas dans les poches. D'abord parce que je crois que ça les intéresse pas. Et que, au fond, on a évidemment besoin de tester une partie des expérimentations
Est-ce que, juste pour
en Guadeloupe.
conclure, si je peux me permettre, juste j'avais une dernière question parce qu'on n'en a pas parlé, vous en parlez dans le livre, c'est l'eau de Déthérium. J'avais jamais entendu ça, l'eau appauvrie en Déthérium, et également la Q10 que vous parlez aussi en complémentation possible avec l'acétyl L-carnitine. Est-ce qu'on peut juste conclure sur ça, si ça ne vous dérange pas de prendre deux
J'aurais
petites
une
minutes?
dernière question. Moi aussi, je gratte une dernière question,
Et on
docteur
a
Schwartz.
51 minutes en plus. Je pense qu'on peut encore avoir 3-4 minutes, s'il vous plaît.
Euh,
Désolé, encore un
non,
grand merci
attendez,
d'être avec
attendez, je
nous.
vais essayer. Les gens sont terrorisés par tout ce qui donne le cancer. Et vous avez des listes sans fin. Certains déconnants, mais la majorité pas déconnants. Alors que ce soit les ondes, que ce soit les perturbateurs endocriniens, ainsi de suite. Moi, j'ai pas les moyens de tester tout ça. Et la même chose pour le traitement. Les molécules qui puissent relancer la mitochondrie, c'est-à-dire refaire brûler, vous en avez 13 à la douzaine. Et au fond, moi, j'en ai choisi certaines. Le bleu de méthylène, ça avait l'avantage d'avoir déjà été testé. J'ai eu le culot ou pas d'augmenter les doses par rapport aux doses qu'on donnait de façon classique. L'ivermectine, d'autres m'ont amené cette idée-là, c'est pas moi qui l'ai sorti. Après, vous avez le deutérium, le coenzyme Q10. Et probablement, on pourra faire nettement mieux que ce qu'on a. Je veux dire, nous n'avons que le début. Aujourd'hui, on ne traite plus la tuberculose à la streptomycine. Je vous rappelle pour l'histoire, la tuberculose, on a isolement de la bactérie 1880, traitement 1944, et ça a eu son AMM sur 7 malades. Parce que tellement c'était évident. Et ce qu'on voit actuellement sur les malades, c'est clair, c'est net, sous peu que les malades ne soient pas en fin de cycle. On n'a pas encore le traitement pour les fins de cycle. Et souvent, en conjonction avec les traitements classiques, qui ont aussi une forme d'efficacité. Voilà.
Ok. Pierre, tu as une dernière question, peut-être, pour le docteur, et après on le libère, promis.
Oui.
Merci encore.
Forcément, ça nous éclaire sur quelques sujets. Il faudra qu'on creuse encore plus, que c'est, comme vous dites, le cancer, c'est simple dans votre livre. Hein. Ça a été simple et ça a été effectivement une bataille dont on ne peut pas se rendre compte pour le simplifier autant. Je m'étais interrogé sur les substrats énergétiques. On a discuté du glucose, on a discuté aussi des cétones, où vous émettiez des réserves sur le fait de passer en régime cétogène, plutôt une approche, on va dire, hybride, où c'est faible en glucides et sans trop de production de corps cétonique. Mais je voyais aussi qu'il y avait une voie où il y avait l'utilisation de la glutamine. Ça me pose la question, parce qu'on utilise des fois la glutamine en supplémentation pour les troubles de perméabilité intestinale, avec plus ou moins de véracité scientifique derrière cela. Est-ce que pour vous, il faut rester prudent sur cette supplémentation en glutamine ou pas ?
Je vais vous répondre totalement différemment de ce que vous pensez. On vit qu'une fois. On va tous au même endroit. Peut-être dans des cimetières différents, mais on y va tous.
Oui, mais il faut avoir une plus grande vitesse quand même.
Ouais. Et il faut apprécier la vie. Et il ne faut pas oublier ça. Et à se mettre des interdits partout, on va mieux. Bah, évidemment qu'il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire. Mais moi, j'aime bien boire le soir. Mon verre de schnapps. Et puis ceci, et puis cela. Et ça, c'est un vrai sujet. Et il faut arrêter d'abord. Et ça, je reviens sur le dernier bouquin parce qu'il va sortir. Je suis convaincu qu'il y a une vie après la mort, dont on ne connaît pas la nature. Pour ça, en partie, j'ai écrit « Choisir la vie ». C'est peut-être mieux après. Allez, ça. Donc, votre glutamine, au fond, j'en sais rien. Mais j'en ai tellement marre des gens qu'on terrorise de ceci ou de cela. Et on met des normes. Et les gens dépriment, aux surprises.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. N'ayez pas peur, vivez, prenez du bon temps pour vous et appréciez la vie avec
modération. Mais attention au sucre. Mais attention au sucre.
Non. À l'alcool. Il y a un autre sujet. Et je ne voudrais pas plaisanter là-dessus. La valeur de la révolte. C'est un vrai paramètre. Je veux dire, c'est tout un bas normal. Qu'on ne soit pas con, qu'on ait bossé, tout ça, c'est vrai. Mais le cancer, c'était tout même pas normal que ce soit aussi long et aussi compliqué. Je veux dire, je ne comprends pas tout ça. Et au fond, c'est à nous, citoyens, de faire une société. Je vous remercie.
Ben, merci beaucoup. En tout cas, on conseille votre livre et le prochain, bien sûr. On mettra tous les liens en description. On espère vous recevoir pour votre nouveau livre. Si Thierry Soucard veut nous en envoyer un exemplaire, on le lira avec grand plaisir. Un grand merci. N'hésitez pas toujours à poser vos questions aussi et à liker la vidéo. À bientôt pour un nouvel épisode des 1000%.
Oui. Au revoir. Merci beaucoup. Et pour ceux que ça intéresse, le livre, c'est vraiment une masterclass. Pour le coup, c'est vraiment
très, très fort et très intéressant,
oui,
et accessible.
Oui. Allez. Bonne journée à tous. Ciao.